Il fallait anticiper ces mouvements-là que le faire contraint et forcé. Parce que quand aujourd'hui on voit certaines industries, certains secteurs, on parle de secteurs qui ferment, on parle de fonderies, on parle d'un certain nombre de secteurs industriels qui ferment en France. Vous dites dans votre livre d'ailleurs qu'il y a des tas de secteurs qui se créent mais dont on ne parle pas aujourd'hui. On ne parle que finalement de ceux qui sont en train de fermer, mais l'économie a toujours fonctionné comme ça.
Ben oui, mais c'est-à-dire que Schumpeter, si vous voulez, c'est toujours la destruction créatrice. C'est clair, comme en gros, globalement, ça montait, comme vous le disiez, à 5%. Si quelque chose descend, c'est quelque chose monte. Mais ce qui se passe, c'est que quand un produit descend, il est en bout de cycle de vie, il est concentré, donc c'est des grosses usines. C'est visible. Tout ce qui démarre et substitue, c'est les toutes petites sociétés que vous ne voyez pas, elles sont partout. Et donc, c'est très mauvais en communication, c'est qu'on insiste que sur ce qui marche parce que c'est facile à voir, alors que tout ce qui est en train, tout ce qui descend, alors que ce qui monte, c'est très difficile à voir et à capturer, et on ne peut pas le montrer. Donc vous montrez constamment des histoires de ce qui descend, et ça fout le moral à zéro. Alors qu'il faut aller chercher ce qui monte, ce qui est plus difficile. Il faut aller trouver les petites pousses qui montent, c'est pas très facile. Et oui, ils sont partout, en fait. Vous voyez, et donc, c'est très très bien que vous fassiez ces émissions, parce qu'on peut expliquer tout ça.
François Martin, aussi, ce qui est aussi important, c'est de faire de la délocalisation préparée, organisée, et planifiée, pas de la délocalisation de détresse.
Absolument.
Parce que tout ce que vous dites sur la reformation des personnels, etc., en général, on ne le dit pas, parce qu'on insiste surtout sur les délocalisations de détresse, où on ferme en catastrophe, on transforme le problème en un problème public.
Et on ne parle jamais des délocalisations préparées, parce que comme ça marche, ce n'est pas intéressant, et donc on n'en parle pas. Voilà. Mais après, ce qu'il faut, c'est une grande confiance avec les syndicats, c'est-à-dire qu'il faut bien expliquer. Voilà. Donc c'est vraiment, nous, on remercie beaucoup nos syndicats, parce qu'ils nous font confiance, et quand on leur dit à l'avance, telle usine, on va la fermer en 5 ans, on peut travailler ensemble sans qu'ils ne prennent pas peur parce qu'ils ont confiance en nous et on leur parle parce qu'on a confiance en eux. Si vous voulez. Donc je pense que la confiance, c'est la clé et surtout, ça fait monter tout le monde. C'est-à-dire que vous faites grimper les gens. Donc c'est bon pour tout le monde, si vous voulez.
Il y a quand même un point particulier pour Essilor qu'il faut signaler. Essilor ne serait pas Essilor sans cela. C'est l'actionnariat salarié depuis longtemps puisque à la création d'Essilor, c'était une coopérative d'un côté et une entreprise de l'autre, ce qu'on a oublié aujourd'hui. Essilor, c'est un groupe mondial. Cet actionnariat salarié qui d'ailleurs... Votre succès dit, on était à autour de 15, on va essayer d'aller à 20.
Oui, c'est ça.
Ça change la donne ?
Ah, ça change tout. Je pense, à mon avis, ça change beaucoup parce que d'abord, les salariés, ils sont dans l'entreprise est à eux. Alors, ils sont 15 ou 20%, si vous voulez. Mais déjà, c'est le plus gros actionnaire. C'est l'actionnaire qui dure le plus longtemps. Donc, il y a une légitimité, même s'il n'a pas 50. Je considère que quelqu'un qui a 20 ans depuis 40 ans, c'est plus légitime que quelqu'un qui a 51 pendant 10 secondes. Donc, ça donne une grande légitimité. Ils sont associés aux prises de décision. Donc, ils ont des gens en conseil. Donc, ils ont du très long terme. Et pour le management, moi-même, et Sanière, mon successeur, on est responsable devant nos employés de l'argent qu'ils ont mis à risque. Donc ça change complètement le rapport que les entre guillemets patrons, qui est un mot qu'on n'aime pas chez Essilor, parce que on est des primum inter pares en fait, et on est responsable de l'argent des employés qui sont des collaborateurs. Ça change tout. Et après on se rend compte que les gens sont très culottés. On se rend compte que les salariés, l'image dit l'action à salarié c'est mauvais parce que les gens vont se protéger en le disant le conseil. Et ben c'est exactement l'inverse. Quand on a pris des trucs extrêmement culottés, ben ceux qui allaient c'était les salariés, beaucoup plus que le stock market. Et donc voilà. Donc, je pense que l'action à salarié c'est à mon avis une des réponses à la crise actuelle, c'est-à-dire que personne ne saura dans des pays développés si la valeur ajoutée va aller du côté du salarié ou du capital. Personne ne sait. Ceux qui disent que ça va d'un côté ou de l'autre, ce sont des escrocs intellectuels. La meilleure façon, c'est de mettre les salariés au capital. Comme ça, où qu'aille la valeur ajoutée, de toute façon, ils en bénéficient.
Alors, il faut quand même que les dirigeants réussissent, parce qu'on se souvient, on peut citer ici un certain nombre d'entreprises, où il y en a deux, plutôt du côté d'Internet et des technologies, mais deux entreprises qui, effectivement, ont connu la bulle Internet et ont connu surtout des aventures pour les actionnaires. Salariés ont presque tout perdu.
Ben là, il faut une bonne gouvernance, si vous voulez. Il faut pas nier le risque. Vous l'évoquiez, c'est sans peur. Mais on disait que c'est sans peur, mais pas sans risque. Mais la justification du profit, c'est la prise de risque. Alors, si les gens ne veulent pas prendre de risque, à ce moment, très bien, mais qu'on ne participe pas au profit. Si on veut participer au prix, on prend un risque. Il y a quand même toujours, il faut accepter. La concurrence, c'est ça qui crée le risque, c'est la liberté. Alors, on choisit dans un pays de liberté ou un pays dans lequel il n'y a pas de liberté. Bon, moi, j'ai vu un peu les deux avec Essilor. Je préfère le petit stress du risque parce que je pense que les personnalités développe dans la liberté et la prise de risque. Hein. Mais ça veut dire aussi qu'il faut être intelligent, il ne faut pas faire de bêtises, hein, bien sûr.
C'est un modèle intéressant, hein, le modèle des Sylor, parce que c'est une grande entreprise, mais qui a su garder cet esprit entrepreneurial, finalement, ce goût du risque. Et je pense que c'est cette combinaison entre le risque et la stabilité que peut offrir une grande structure avec ce modèle participatif, qui fait finalement la force de ces entreprises. Et on retrouve ça aussi aujourd'hui dans les briques, hein, puisque on a de plus en plus un modèle de capitalisme, alors soit un modèle de capitalisme familial, avec des grands noyaux durs familiaux qui contrôlent ces groupes diversifiés, en associant d'une manière ou d'une autre aussi les salariés, soit des groupes qui sont privés publics, où l'État joue un rôle important et finalement joue son rôle de stratège et d'accompagnateur à long terme. Mais c'est vraiment cette combinaison entre la prise de risque d'un côté et la projection dans l'avenir que peut offrir, je dirais, la présence d'un noyau dur ou d'un actionnaire stable qui fait, à mon avis, je dirais, le meilleur modèle à long terme.
Et cette confrontation, comment vous la voyez, vous, Alexandre, cette confrontation entre justement des grandes entreprises françaises, internationales, et les grandes entreprises aussi qui se développent dans ces pays émergents? Quand on voit aujourd'hui, on a des entreprises qui sont équivalentes en termes d'hommes, en termes de savoir-faire, finalement.
C'est fait. Moi, je pense qu'on a longtemps vu ces pays comme un peu des pays de production low cost, on va dire, que ce soit pour l'industrie ou pour les services. Et aujourd'hui, les entreprises de ces pays émergent, conquièrent des parts de marché dans leur propre pays déjà, aussi sur le plan régional, ce qu'on observe en Amérique latine, par exemple, avec le phénomène des Global Latinas, ces entreprises du Brésil ou d'Argentine qui prennent des parts sur tout le marché latino-américain et qui évincent d'ailleurs les entreprises européennes ou américaines. Et de plus en plus, ces entreprises qui ont commencé à s'internationaliser dans les pays qui leur ressemblaient, aujourd'hui, vise aussi les marchés matures dont l'Europe et les États-Unis, parce qu'elles savent qu'elles y ont des choses à gagner, à apprendre. Et donc ça, c'est effectivement une tendance de fond qu'on observe aujourd'hui.
Je vais aller tout à fait dans votre sens. J'ai invité récemment, dans le cadre du groupement HEC que je préside, le ministre des Finances de Tunisie qui est venu présenter le plan Jasmin. Et il nous a dit, en substance, notre souci et notre objectif, c'est de changer notre industrie et notre économie, qui est une économie de transformation, où si on achète des jeans à 8, on met 2 et on les revend à 10, on gagne peu, en une économie de la connaissance et de l'innovation. C'est tout notre enjeu. Alors, si nous, qui avons défini en 2000 le fait qu'on voulait vivre dans une économie, qu'on voulait construire une économie de la connaissance, on met pas en face l'innovation et les conditions humaines pour créer l'innovation, parce que on oublie de dire que la technologie et l'humain, ça va ensemble. Quand les gens, on leur sert, ils n'ont pas envie de créer. Il faut qu'il y ait quelque part, si on leur dit vous partagez le risque, il faut qu'ils soient rémunérés comme tels. Alors si on ne généralise pas ça, le problème qui va se passer, c'est que ces pays qui sont encore dans l'industrie de la transformation, eux-mêmes, ils vont sauter le pas où nous pouvons encore aujourd'hui être leaders plus vite que nous.
C'est intéressant, parce que cette partie-là, bien sûr, on pense au printemps arabe, à tous les changements qui sont arrivés, ça va pouvoir amener des changements sur ces pays-là qui, effectivement, vont peut-être changer de modèle, effectivement, comme l'a dit François Martin.
Je pense que c'est vraiment une lame de fond aujourd'hui qui traverse tous ces pays. Alors, avec quand même des défis qui sont importants, hein. Il ne faut pas cacher les risques et les défis auxquels ces pays devront faire face dans cette phase de transformation, je dirais, assez considérable sur le plan démographique, sur le plan social, sur le plan financier aussi, parce que un certain nombre de pays émergents ne maîtrisent pas leurs finances, contrairement à la Chine et à l'Inde, par exemple, qui ont fait le choix d'une ouverture très graduelle, très contrôlée dans ce domaine, en maintenant un contrôle public très fort sur le secteur bancaire et financier. Mais effectivement, il y a d'autres pays où c'est moins le cas et où la dépendance vis-à-vis de l'étranger reste encore assez forte. Néanmoins, effectivement, c'est une transformation de fond, hein, qu'on voit à tous les niveaux, avec l'émergence d'une innovation de plus en plus importante. En Chine, vous avez la part du PIB consacrée à la R&D qui a triplé en l'espace de quelques années, et en montant aussi, c'est aujourd'hui assez considérable. Donc on voit qu'il y a effectivement ce phénomène dans ces grands pays émergents de pari sur l'innovation, de pari sur l'entreprise. l'entrepreneuriat qui est vraiment la grande tendance. Je crois qu'il n'y a plus aujourd'hui de leadership incontesté dans aucun secteur. C'est une, vraiment une compétition mondiale au sens...
Ça veut dire que nos problèmes de la zone euro du moment, nos problèmes du moment, les pays émergents ont aussi leurs propres problèmes en ce moment de trouver leur bon modèle.
Il faut les comprendre. Mais je voudrais rebondir. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse qui est faite en disant que dans les pays émergents, mettons chinéens, on voit émerger un capitalisme familial. Nous, dans notre métier, qui est un petit métier, si vous voulez, on voit le capitalisme familial dans ces familles. Alors ça a beaucoup changé, Essilor, parce que Essilor était jusqu'en 1995 assez occidental, Europe et Amérique. Et alors, en découvrant l'Asie, on a découvert en fait le concept de la famille. D'ailleurs, maintenant, je parle de la grande famille Essilor, parce qu'au fond, le capitalisme asiatique est très, très différent. Et donc, on a fait, en fait, toutes ces grandes sociétés indiennes et chinoises, et on s'est allié avec elles. On a fait des joint ventures, on a fait des 50-50, ils sont extraordinaires. Et donc, en fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, il va y avoir une nouvelle concurrence. Mais alors, dans des gens comme nous, si vous voulez, la concurrence, c'est bon. Parce que la concurrence, c'est quelque chose qui vous fait grandir. C'est exactement, c'est comme Federer qui est ravi de voir Nadal arriver, parce que ce qui va se passer, ça va faire grandir les deux. Et en fait, ça va rendre l'industrie encore plus intéressante, qui va grandir. Donc je pense que tout ça, si on a un esprit positif et qu'on est au contact, on est ravi de voir des beaux joueurs. Parce que c'est des beaux joueurs qui rentrent sur le terrain de jeu, c'est des choses qui vont grandir le marché.
Si vous voulez. La concurrence générale, elle fait peur.
Et je crois elle fait peur, mais quand vous êtes habitué, est-ce que moi, j'adore la comparaison de tennis de Federer, parce que Federer, c'est un gars qui était très, très doué, qui était un gars de balle. Il aurait pu très, très bien être le champion de balle en restant balle. Il a un jour décidé de se cogner contre Pete Sampras aux États-Unis. La première fois, il s'est pris des beignes épouvantables. Mais la troisième fois, il l'a battu. Et c'est grâce à ça qu'il est devenu. C'est exactement le mécanisme de la mondialisation. C'est-à-dire que quand vous commencez à jouer sur un autre terrain, bien sûr, vous prenez des claques au départ, mais vous découvrez des nouveautés, des nouveaux problèmes. Vous faites des nouveaux produits. Vous découvrez des nouveaux terrains. Des nouveaux intérêts, des nouvelles surfaces, vous trouvez un nouveau jeu, vous avez de nouveaux concurrents. Et c'est ça qu'il faut. Et moi, le message, c'est pour ça que j'ai écrit, c'est que la mondialisation, si on est. On plonge, il faut plonger, il faut voyager, il faut s'expatrier. Mais c'est absolument fantastique. C'est vraiment une renaissance pour la maison. Et on se rend compte aussi que c'est aussi des choses qui tirent. C'est bien pour les pays en voie de développement, parce que c'est ça qui tire les gens de la pauvreté. Moi, j'ai vu la Chine en 20 ans. Bon, au début, je faisais 4 ou 5 voyages par an, même plus que ça, pour monter les usines et les réseaux commerciaux. Ce qu'on a vu, ce qui s'est passé en Chine et maintenant dans certains coins d'Inde, je regrette que les Français ne l'aient pas vu. Parce que c'est des changements absolument ahurissants. Hein. Et on voit que c'est du bien. Alors, il reste bien sûr des poches de malheur et des horreurs, mais il y a aussi des trucs qui sont transformés, si vous voulez. Donc, globalement, la mondialisation, c'est bien, il ne faut pas avoir peur. Simplement, il faut plonger. Je crois qu'on ne peut pas se dire, je vais bénéficier en restant avec son petit week-end, ses petites 35 heures, ses petits avantages acquis. Alors là, ça, c'est très, très grave. Mais si, par contre, on dit, tout ça, je le lâche, parce qu'au fond, un client, c'est jamais acquis. Donc, je ne peux pas avoir un avantage acquis. Bon, mais j'ai confiance en moi et je plonge dans le grand bain. Donc, je suis prêt à tout perdre, mais je gagne tout. Et ça, c'est l'esprit qu'il faut prendre. Alors, je comprends que ce que je raconte, c'est un peu original, mais on est beaucoup plus à vivre ça qu'on le croit. Simplement, on n'a pas le micro. Donc, merci de nous permettre d'exprimer ça un tout petit peu.
François Martin, sur cette
chose, à ce que vous dites. Effectivement, vous le vivez bien. En plus, vous avez un esprit positif.
Parce qu'on s'est défoncé.
Et vous vous êtes défoncé, oui.
Dizaines de millions de kilomètres. Voilà. 10 millions de kilomètres.
Moi, je me promène pendant 35 ans, depuis 35 ans, dans les marchés émergents essentiellement. J'ai vu les Maliens, les Brésiliens, les Péruviens, etc. Eux, c'est l'horreur pour eux aujourd'hui. Ils sont dans la nuit. C'est l'horreur aujourd'hui. C'est formidable. Mais nous, on est dans la situation, parce que vous repreniez le cas de Federer et de Nadal. Il y a un type qui s'appelle Federer, un jour, qui devient un champion, et il est champion pendant 10 ans. Et puis un jour, il sort un type, un Espagnol, un petit taureau mallorquin, le machaca, comme on dit en espagnol, il le taille en pièces. Il commence à prendre quelques coups, et il tombe sur les fesses, et il commence à plus gagner. Et il dit, mais comment peut-on me battre? Je suis le champion.
D'accord.
Et on est exactement dans cette situation. Alors à partir de ce moment-là, il y a deux solutions. Il y a le fait de dire, allez, oublie, t'es un joueur comme les autres, t'es un challenger, vas-y, tu gagnes. Ou bien tu peux te dire, j'ai fait mon temps, j'ai gagné mon argent, je vis sur mes lauriers et je vais m'installer chez moi, etc. On est exactement dans cette situation. Je dirais que, en plus de ce que vous dites, je pense que vous ne l'avez pas parce que vous êtes une société qui gagne, mais en général, je pense qu'il y a un problème d'ego dans l'Occident parce que on sort d'une période postcoloniale, il y a un problème d'ego. Alors maintenant, le choix est en nous, c'est où on y va.
C'est l'humilité.
Les Chinois, c'est les concurrents comme les autres. Ouais. Est-ce qu'on y va à ce moment-là, ou bien c'est comment les Chinois peuvent-ils venir nous Si c'est ça, ben, dans 30 ans, il restera les bistrots, s'il y en a encore, etc. Oui. Etc.
Donc, je pense que le problème français est, la France à visiter.
Le problème est psychologique. Ouais. On le dit pas assez, mais il est psychologique. Plus que c'est dans la tête que se fait le combat. Et il se fait en ce moment.